Qui nous fera voir le bonheur? Un cycle de conférences les dimanches de carême 2022 à la cathédrale Saint-Maclou de Pontoise. Avec Mgr Stanislas Lalanne, évêque de Pontoise, et Mgr François Bousquet, professeur honoraire de l'Institut catholique de Paris. Cette première conférence, enregistrée le 13 mars 2022, nous interroge sur la question cruciale du sens de la vie. La vie a-t-elle un sens à la fin ?
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous venus ici ce soir en cette cathédrale de Pontoise.
Mgr François Bousquet.
Tandis que nous ouvrons une série de 5 conférences de carême intitulées « Qui nous fera voir le bonheur ?» Très rapidement, il convient de présenter notre propos quant au contenu et quant à sa forme. La forme d'abord. Mgr Lalanne a eu l'idée à laquelle j'ai bien vite acquiescé de nous faire parler à deux voix. Il y aura donc une parole de l'évêque du diocèse avec sa grâce propre et la parole d'un théologien de métier qui a toujours tenu à rester en même temps pasteur. En nous concertant lors de la préparation, nous avons aussi bien vite vu que notre intuition se confirmait. Nous sommes proches par une longue amitié spirituelle et ecclésiale, de telle sorte que chaque voix, avec sa tonalité propre, nous permettra d'être complémentaires pour faire entendre ainsi les harmoniques de la mission en ce temps de renouvellement qu'est le carême. Parler à deux voix, c'est une manière d'innover et d'associer en ce moment où l'Église tout entière réfléchit à la synodalité. Le faire à partir de la cathédrale, c'est assurément traditionnel, et en même temps, cela rappelle que notre vocation, c'est la mission. Quant au contenu, la thématique retenue a été de développer, après ce long temps de pandémie qui a pesé sur tout le monde, une réponse un peu développée à la question « Mais qui nous fera voir le bonheur ?» Question à laquelle le temps de l'épreuve a redonné toute son acuité, quelle que soit la manière dont la Covid nous a atteints, nous, nos proches et la société globale. Le parcours se déploiera durant les 5 dimanches qui nous conduisent jusqu'à la fête des Rameaux, ouvrant la Semaine Sainte. Vous ne serez pas étonnés d'entendre au fil des 5 conférences des témoignages de catéchumènes ou de confirmants. Les lettres qui adressent ces témoignages à l'évêque, et dont l'anonymat bien sûr sera respecté, disent une foi naissante, toujours vive, parfois fragile, écrivait déjà Mgr Lalanne en 2013. C'est la foi des commencements, une manière d'accueillir la personne de Jésus, son enseignement, la vie nouvelle qu'il promet. Elle constitue un témoignage d'une force et d'une humilité extraordinaire. Ces catéchumènes et ces confirmants sont un cadeau pour l'Église. À travers eux, Dieu lui-même nous fait signe. Il nous dit l'éternel matin de Pâques et l'élan vivifiant de la Pentecôte. Oui, la jeunesse de leur foi est un don que l'Esprit-Saint nous fait. Elle nous invite à ne jamais nous endormir sur nos certitudes ou l'habitude de pratiques anciennes, souvent peu revisitées. Fin de citation. C'est cette foi que ces conférences de carême voudront nourrir comme un don reçu sans cesse à raviver. Voici l'enchaînement des diverses conférences dont les titres ont déjà été annoncés sur de petites affichettes à votre disposition. Aujourd'hui, la question existentielle du sens de notre existence, telle qu'on peut l'apercevoir à travers les difficultés du moment. Le 20 mars, dimanche prochain, nous verrons que cette question du sens rencontre l'obstacle du scandale du mal. Comment l'affronter ? Qu'en dit la foi ? Le 27 mars, troisième conférence, nous aurons à parler du combat spirituel, combat qui fait partie de l'existence chrétienne. Comment l'envisager ? À partir des expériences consignées dans la tradition spirituelle chrétienne comme un véritable combat pour lequel nous ne sommes pas sans équipement. Le 3 avril, dans ce chemin qui nous mène à revivre la Pâque du Christ, sa mort et sa résurrection, nous réfléchirons justement à la question ultime de la mort que la pandémie nous a fait toucher de près et nous réfléchirons sur la résurrection du Seigneur. Enfin, le 10 avril, nous saluerons l'espérance. L'espérance fondée sur le mystère pascal que nous allons revivre pendant la Semaine Sainte et qui nous fera voir la recherche du bonheur comme attente active au-delà de nos peurs.
Cette conférence fait en trois moments. Le premier, donc autour de cette question, la vie a-t-elle un sens à la fin ?
Monseigneur Stanislas Lalanne.
C'est qu'en effet, la question se pose, non pas, pourrait-on dire, comme toujours, mais d'une manière ravivée par ces deux dernières années que nous venons de traverser. En témoigne de multiples contacts avec les fidèles du diocèse, de multiples rencontres, des personnes de tous âges, de toutes conditions, actives, retirées, vulnérables. Les jeunes n'ont pas été les seuls à se poser la question de l'avenir. La Covid a touché toute la planète. Et contre elle, contre ses conséquences sur notre vie de tous les jours, il a fallu se battre collectivement et personnellement. Il en a résulté que la question du sens de la vie s'est posée, j'allais dire, avec une nouvelle acuité. Sont apparus bien des aspects existentiels décisifs. Personne n'a été épargné. Et beaucoup de nos habitudes et de nos modes de vie ont été, vous le savez, remis en question. La vie sociale a été complètement transformée, les transports, le télétravail, et ce n'est pas terminé. La fermeture des lieux de culture, des clubs sportifs, des restaurants. Le quotidien a été rapatrié sur le cercle familial. Les grandes fonctions, l'école, l'hôpital, sont alors apparues dans ce qu'elles ont de précieux, mais aussi de très fragile. Toute notre vie a été soumise à l'imposition et aux variations des règles sanitaires et de précautions multiples. Et pendant la première vague, ne pas pouvoir visiter des parents âgés et confinés a été particulièrement mal vécu. Premier aspect que je voudrais aborder, c'est cette réelle sensation de manque qui est apparue. Manque de rencontres, de voyages, de culture, de liberté, de pratiques religieuses, un véritable manque de vie. Je cite, « Plus je cherchais, plus je me posais des questions et de plus en plus, au plus profond de mon âme, se faisait sentir un profond manque. Mon âme criait famine. Celui qui ressent ce profond manque et dont l'âme crie famine, il a 15 ans, il sera baptisé dans quelques semaines à Pâques. Il a vécu l'appel décisif ici, samedi dernier. » Hommes et femmes de ce temps sont en quête de biens spirituels. Nous en, font, nous en faisons nous-mêmes l'expérience. Et ce temps de confinement a conduit nombre de personnes à en prendre conscience. N'importe quel projet peut être réduit à néant quand une seule chose manque, si cette chose est essentielle. Le témoignage du jeune homme riche dans l'évangile de Matthieu nous donne, je crois, un éclairage particulier sur la nécessité du manque pour vivre, pour hériter de la vie éternelle. En l'occurrence, ce qui manque à cet homme riche relève de l'essentiel et non de l'accessoire. Le problème de cet homme, c'est qu'il sent confusément que quelque chose ne va pas dans sa vie, mais il ne perçoit pas ce qui lui manque. À cet homme qui s'est protégé dans ses sécurités, en cherchant à avoir et à faire tout ce qu'il fallait faire, Jésus va proposer quelque chose d'impossible. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, accepte le manque, deviens pauvre. Heureux les pauvres, proclament les Béatitudes, mais pour celui qui a bâti toute sa vie sur la recherche de sécurité, le déplacement est impensable. Impossible pour quelqu'un qui croit que c'est en se construisant une forteresse intérieure qu'il va pouvoir tenir dans la vie. Jésus lui dit précisément le contraire. Va, laisse-toi aller au manque, laisse-toi aller à l'imprévu, laisse-toi toucher par les autres, laisse-toi aller à la rencontre avec les pauvres. Ce sont eux qui nous humanisent. Notre jeune catéchumène, lui, s'est laissé aller à l'imprévu. Il me raconte dans sa lettre qu'il a cherché à combler son manque jusqu'au jour où il a posé son premier acte de foi à l'âge de 13 ans, en allant à la messe seul, sans occasion particulière d'un mariage ou d'obsèques, que sais-je. Je le cite. « Et là, pour la première fois, dit-il, écrit-il, j'expérimentais, écoutez bien, une douche spirituelle. » Quelques mois plus tard, devant l'Eucharistie, sans savoir ce qui s'y passait, en mon cœur, je le reconnus. C'était lui, le Christ. Il était là, et au plus profond de moi, je sentais cet amour de Dieu que je n'avais jamais ressenti auparavant. Fin de citation. J'évoquais cette expérience du manque qui nous rejoint les uns et les autres, mais plus fondamentalement, c'est notre rapport même à l'espace et au temps qui a été comme impacté et bouleversé durant ces années. L'interdiction de voyage et plus généralement le confinement sont rapidement apparus comme des contraintes difficilement supportables. Célébrer des obsèques en présence de quelques proches, à distance les uns des autres, contredisait en acte l'intention de faire communauté dans un moment difficile. Et je me souviens avec émotion, et tel ou tel d'entre vous, en tout cas aussi Père Hugues, quand nous avons célébré les obsèques du Père Thomas, le prédécesseur de François Bousquet, alors qu'il était curé de Manny, qui en 8 jours est décédé de la Covid, nous étions une quinzaine de personnes, laïcs, prêtres, évêques. Notre rapport au temps vécu a perdu lui aussi ses repères familiers. Il a fallu vivre au jour le jour, s'habituer à ne pas pouvoir faire de projets, même à court terme, et ainsi vivre dans l'immédiat au risque de tourner en rond. Le confinement nous a fait regretter la vie d'avant, la possibilité de vivre ensemble et de se retrouver au fil des jours pour partager. Mais si l'impact de la crise sanitaire sur notre rapport au temps a été fort, tout comme pour le manque, il n'a pas été seulement négatif. Les paradoxes du temps vécu dans la société qui s'est inauguré avec le développement prodigieux des technologies de la communication ont été tout à coup suspendus, obligeant à réfléchir à ce qui nous était arrivé. Il me semble que l'on peut analyser la situation de cette nouvelle société de cette manière. Tout d'abord, l'immédiateté nous saisit. De plus en plus, et parfois nous bouscule. Puisque nous communiquons vite, il faut répondre vite. Puisqu'il nous est donné la possibilité de communiquer loin d'une manière quasi instantanée, il faut penser vite et ainsi inscrire toute notre action, notre vie, dans la simultanéité. Et tout cela provoque un malaise, comme si pour préserver nos structures sociales, notre capacité à créer des richesses, à innover, nous étions contraints d'accélérer toujours plus. Voilà que de créatrice de liberté, notre accélération du temps est devenue source d'oppression. De maître du temps, nous sommes devenus comme des esclaves. En fait, à force de compter le temps, de le compresser et de sembler le maîtriser toujours davantage, nous avons oublié une vérité toute simple. Le temps, ce n'est pas d'abord une question de quantité. Finalement, mais nous aurons à le regarder de plus près, le temps du confinement a souligné en contrepoint l'importance du temps inaugural, c'est-à-dire du perpétuel commencement de Pâques. Nous en parlerons particulièrement dans la 4e et la 5e conférence. Notre rapport au temps est marqué de façon indélébile par l'espérance. C'est un lieu théologique parce qu'il est marqué d'instant en instant par la révélation de la présence de Dieu. Nous avons besoin du temps pour changer, pour cheminer, pour nous convertir, pour nous transformer. Je pense encore au témoignage d'une lycéenne qui a vécu l'appel décisif aussi samedi dernier. Je la cite, « La demande du baptême, c'est une décision qui a pris beaucoup de temps. Car pour moi, être baptisé n'est pas un choix à prendre à la légère, mais c'est un choix qui change une vie pour toujours. Il faut être prêt et se sentir capable de donner sa vie à celui qui nous a sauvés. » Beau témoignage de cette fille de 16 ans. En y réfléchissant, nous constatons que le présent est le seul temps de Dieu. C'est le seul moment où nous pouvons le rencontrer vraiment. Car hier n'est déjà plus, et demain n'est pas encore. Et la tradition catholique parle souvent de la présence réelle pour signifier que le sacrement nous offre réellement Dieu avec nous. Mais alors cette affirmation interroge notre propre présence. Comment suis-je présent à celui qui est la présence même? Est-ce que je suis ouvert au présent où Dieu se donne? Ou bien suis-je en train de rêver de mes relations passées avec lui, ou encore d'un avenir où j'espère me faire plus proche de lui? Oui, le présent. Pour nous qui sommes capables d'étirer notre rapport au temps ou de vivre dans un perpétuel imaginaire fait d'hier et de demain, le présent est pourtant le seul temps réel. Il est le temps de Dieu par excellence. L'inattendu de cette situation sanitaire, c'est que si elle change notre rapport au temps qui passe, elle nous remet face à l'essentiel du temps présent. En montrant qu'on ne maîtrise pas le cours du temps malgré tous nos efforts, elle montre qu'en recevant le temps comme un don de Dieu, nous pouvons lui donner toute sa dimension et le déployer jusqu'à l'horizon de l'éternité. On pourrait dire ainsi que si hier est un souvenir et demain un mystère, alors aujourd'hui, c'est un cadeau. Et c'est peut-être pour cela qu'on appelle le présent avec un grand P, un beau cadeau. En continuant d'examiner les questions existentielles posées par la COVID, il faudrait bien sûr ne pas oublier de mentionner que la précarité s'est davantage fait sentir. Chez les étudiants, je pense tout ce qui s'est vécu à l'université, au campus de Cergy, personnes isolées, âgées, les personnes vulnérables, les personnes économiquement défavorisées. Et en même temps, il faudrait évoquer les multiples gestes de solidarité, d'attention aux autres, de proximité. Il est intéressant aussi de relever un changement de registre dans le langage. On a moins parlé de réussir sa vie. D'ailleurs, qu'entend-on par réussir ? Aux yeux de qui s'évalue la réussite ? Ce qui s'est passé au premier plan, c'est la qualité de la vie. Et l'on a vu des familles commencer à chercher, bien sûr, quand elles le pouvaient, quand elles avaient les moyens, à vivre plus à la campagne plutôt qu'en ville ou en banlieue. Sans oublier ce changement climatique, ces bouleversements économiques qui interrogeaient déjà depuis longtemps nos modes de vie, qu'on lise ou qu'on relise Laudato si, et les rudes événements, les rudes épreuves que nous traversons, je pense à ce qui se passe en Ukraine, vont sûrement nous obliger à réfléchir de manière encore plus vive, plus neuve. Mais là, c'est l'ultime même de la question qui est réapparue. Que le divertissement, au sens où Pascal en parlait, ne pouvait plus masquer au fond tout cela, la vie, le monde, ça nous mène où ? Ça nous mène à quoi ? Dans ce que nous faisons et ce que nous vivons, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine ? Le dialogue entre Jésus et le jeune homme riche est plus que d'actualité. Peut-on se contenter d'un retour à l'immédiat ? Y a-t-il autre chose à faire qu'à s'éclater dans l'instant ? Qu'est-ce que cela change finalement, que la vie ait un sens ou pas, quand la plupart de ce qui est prescrit nous échappe ? Alors au plus profond, du point de vue croyant, est apparue peu à peu une attitude collective, non réfléchie, mais finalement assez répandue, à cause des précautions à prendre contre l'épidémie, une sorte d'attitude secrétant comme un poison pour la volonté de vivre ensemble, sans laquelle aucune société n'est possible, à savoir ce sentiment que l'autre est une menace, que l'autre est un danger, ce qui est profondément anti-évangélique, vous l'avouerez. Mais qui nous redonnera le goût de la vie ? Qui nous apprendra comment elle peut prendre sens ? Qui nous fera voir le bonheur ?
Thank you.
Deuxième moment, donc, mettre en rapport le mystère de l'existence et le mystère du Christ. Quel premier repère nous donner ? Car malgré la confusion des jours, nous ne sommes pas sans repère. Commençons par regarder ce que recouvrent trois mots, mystère, fin, sens. Mystère d'abord, parce que si nous sommes, nous les êtres humains, un mystère à nous-mêmes, un autre mystère vient à notre rencontre qui a un tout autre sens, à la rencontre du mystère d'ombre que sont nos existences, vient le mystère pascal du Christ. Alors, parler du mystère de l'existence, c'est dire son caractère énigmatique, au sens où l'homme demeure une énigme pour lui-même, et davantage encore, l'histoire collective qu'il se fabrique. Humains, nous savons que nous sommes capables du meilleur comme du pire, et en même temps, nous pouvons rester longtemps dans les zones grises de l'entre-deux, ne réalisant ni exploits ni désastres majeurs, mais guettés plutôt par l'indifférence ou l'insensibilité spirituelle. Parler du mystère du Christ donne une dimension autre. Le mot de mystère dans le langage courant est piégé. Le mystère, c'est ce qui est et demeure incompréhensible. Alors que dans le langage théologique, mystère a un autre sens. Ce n'est pas ce qui arrête la pensée, ce à propos de quoi il n'y a rien à comprendre. Le mot, en ce sens précis, désigne toute réalité à laquelle Dieu prend part. Si bien que le mystère, en ce sens-là, est ce qui nous donnera toujours plus à comprendre et à vivre. Alors la première conclusion à en tirer, c'est que si nous nous heurtons à l'opacité d'une existence, qui est parfois un mystère d'iniquité, comme on le voit quand se déchaînent les guerres ou les haines, pourtant, il y a une autre sorte de mystère qui n'est pas absurde, mais au contraire plein de sens, tout en demeurant inépuisable. Nous aurons à nous en souvenir au terme de notre parcours quand nous verrons combien l'espérance chrétienne est fondée sur le mystère pascal, victorieux de l'absurdité du mal et de la mort, de leur non-sens. À présent, second mot, regardons ce que nous désignons en parlant de la fin de la vie. Dans le langage courant, le mot de fin peut être pris en deux sens différents. Il y a la fin qui est le terme. Quand je dis c'est fini, je dis que tout s'arrête à cette limite. Mais il y a un second sens du mot fin quand il s'agit de la finalité. Telle situation, tel choix, cela mène où ? Cela donne quoi ? Vers quoi cela tend-il ? Mais alors, si nous conjoignons les deux sens, devons-nous dire que la finalité de la vie, c'est son anéantissement, comme si, à la fin, la vie conduisait au néant ? Et tout en nous se cabre devant un tel désespoir. Tout ça pour ça ? Tout ce soin pris pour la vie à naître, toute l'attention aux différentes phases de l'enfance, tous les efforts consentis pour l'école et l'éducation, toute l'attention qu'il faut donner aux multiples aspects de la vie active, tout ce qu'il faut réfléchir et mettre en œuvre pour les régulations de la vie économique et sociale, tout ce qu'il faut imaginer ou prévoir pour préserver l'avenir et assurer la paix, cela tourne à rien. La solution est autre et plus simple qu'il n'y paraît. La fin, la finalité de la vie, c'est tout. Et non pas ceci ou cela, ou ce qui fait illusion en se faisant passer pour la vie. Et précisément, la vie sans fin, au sens où l'on parle de vie éternelle. Où nous pouvons ajouter aussitôt que ce qui fait le lien, de l'une à l'autre, c'est la qualité de cette vie, ce qui lui donne valeur. Des trésors de sagesse et de méditation se sont accumulés depuis 3 millénaires, en Asie comme en Afrique et en Occident. Et le débat proprement philosophique reste toujours ouvert sur ce qui vaut la peine, comme le langage dit bien, la peine que l'on se donne. Notre question de départ était « La vie a-t-elle un sens à la fin ?» Il faut cette fois regarder ce que l'on dit quand on parle de sens. Comme on dit « sens de la marche » ou « sens interdit », le sens, c'est ce qui permet de s'orienter, de prendre une direction, si possible la bonne. Pour trouver le sens de la vie, il faut voir où mène la direction que l'on prend et donc choisir entre diverses possibilités. 3 remarques brèves autour de ces premiers repères. La première, je trouve trop souvent inaperçue, ce qui tient notre humanité à son amplitude qui va de la terre au ciel, ou plutôt qui est capable de vouloir simultanément les biens de la terre et ceux du ciel, dans un mélange desquels faire son choix pour s'orienter. Mais en un mot, pour l'être humain, le sens, qui peut en définitive correspondre au plus haut de ce que nous sommes, c'est toujours quelqu'un. Le sens, c'est quelqu'un. Une personne, un regard, un visage, en tout cas quelqu'un à qui on peut dire « tu » et avec qui envisager l'avenir. Le sens n'est pas dans les choses. On peut accumuler les objets, objets d'art ou richesses. Ils ne me parlent pas et ne saturent pas mon cœur. Au contraire, leur quête pourra parfois être insatiable sans nous réjouir pleinement. Le sens n'est pas non plus dans les idées, fussent-elles de grands idéaux, car les idéologies peuvent aussi, si l'on y prend garde, être idolâtrées et devenir violence. Non, le sens est toujours quelqu'un, ma femme, mon mari, mes enfants, mes compagnons de travail, tout être humain, et même Dieu comme quelqu'un, et non pas comme une idée. D'une manière ou d'une autre, il faut que ce qui fait sens me parle. La beauté elle-même d'une personne ou d'une œuvre d'art, si elle ne me parle pas, elle me tient à l'écart, elle reste dans un ailleurs inaccessible et cela me désespère. Cette beauté n'est pas capable de donner sens à ma vie. Il s'ensuit de ce constat que le sens n'est pas imaginable comme une sorte de trajectoire continue et uniforme qu'on ne pourrait d'ailleurs déchiffrer qu'à la fin, un plan écrit d'avance et qui nous surplomberait. Il advient ou fait sentir son manque dans la rencontre des situations et des personnes. En fait, ce qui est à notre portée, c'est d'essayer de construire ensemble plutôt des trajectoires de sens réalisables au cours d'une vie à partir des solidarités multiples qui font le tissu même de toute existence. Ce tissu qui relie à tous, mais demeure singulier, comme chaque existence elle-même, ce qui fait vraiment sens en définitive est ce qui nous rend chacun unique et tous solidaires dans la complexité du monde. 2e remarque, avant même de se pencher sur l'absurdité du mal, sur tout ce qui fait obstacle au sens, il n'est pas inutile de s'interroger sur les contradictions du désir. Une des composantes de cette énigme qu'est l'être humain à lui-même dans sa quête du sens est la polyvalence même du désir. C'est bien de dire à un jeune dans un parcours éducatif « deviens toi-même ». Oui, mais sans oublier de lui dire « mais pas n'importe quel toi-même ». Car le constat est facile à faire, non pas tant que le désir est insatiable, car la vitalité du désir est souvent signe de la vitalité, de l'appétit de vivre, mais plutôt que le désir qui ignore ses limites et la mesure est vite contradictoire. Nous voulons tout et le contraire de tout, sans parler des contradictions déjà soulignées par saint Paul lui-même. Il écrit effectivement « Je ne comprends rien à ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, mais ce que je hais, je le fais. Car je sais qu'en moi, je veux dire dans ma chair, le bien n'habite pas. Vouloir le bien est à ma portée, mais non pas l'accomplir, puisque le bien que je veux, je ne le fais pas, et le mal que je ne veux pas, je le fais. » Au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Le sens est quelqu'un, toujours être attentif aux contradictions du désir. Troisième remarque, où est notre cœur? Si les désirs humains sont contradictoires, l'être humain ne peut s'orienter qu'en essayant de hiérarchiser les valeurs dans ce à quoi il tient, dans ce qui vaut pour lui, dans ce qui donne sens à ses actions. Tout cela, en dehors de ce que la nature impose, étant laissé libre, reste à identifier le centre. Où est, comment il est écrit en Matthieu au chapitre 6, verset 22, où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Mais alors, pour chercher le sens de la vie, la question devient, autour de quoi, ou plutôt de qui, unifier notre cœur? C'est pourquoi notre troisième conférence de carême s'intéressera au combat spirituel. Mais regardons à présent ce que l'on pourrait appeler l'originalité chrétienne de la question du sens. Cette originalité chrétienne repose sur un paradoxe, à savoir qu'il s'agit pour nous croyants, pour nous orienter, de tout comprendre à partir de l'avenir, alors même que nous ne maîtrisons pas cet avenir. Fondamentalement, cela repose sur la résurrection qui s'offre à nous à partir du ressuscité, le Seigneur Jésus. L'homme à venir, l'homme accompli, c'est lui le ressuscité. Et précisément, nous n'avons pas fini de le comprendre ou de l'accueillir. Cette fin-là, ce but-là, elle nous mène de commencement en commencement. Disons plus, de même que l'absurde de la croix et de la passion, on verra en quel sens, vient surmonter l'absurde du mal dont nous parlerons dans la prochaine conférence. De même, ce qu'il y a de plus grand que nous, de plus haut ou de plus profond que notre humanité, vient à la rencontre de cet inaccompli en chacun de nos destins. Et cela inscrit comme sens possible l'appel précisément à plus haut, plus grand, plus humain, en voie même d'avènement et de résurrection pour notre humanité commune, au point de constituer aussi un espoir réel pour les vies brisées, inachevées, inaccomplies. Que veut dire alors comprendre à partir de l'avenir? C'est comprendre à partir même de la trajectoire inaugurée par le Seigneur Jésus, tout un parcours déjà vécu par lui dans l'incarnation et dans la Pâque. C'est ici qu'il faut revenir au grand récit de la foi dans l'Écriture. Déjà, ce qui s'inaugure et s'explicite dans le Premier Testament est une histoire d'alliance entre Dieu et l'humanité. Le sens, c'est l'autre dans une alliance. L'autre avec une majuscule qu'il va falloir comprendre autrement pour nous dès lors que lui-même se lie, s'allie avec cet autre qui est pourtant sa créature. De la création à l'alliance, une seule loi donne sens, se réjouir de la communion dans la différence maintenue. Pour se réjouir, se réjouir de la communion dans la différence maintenue. De la nativité à l'ascension, la trajectoire décrit une courbe où la terre est épousée et le ciel ouvert. De la nativité à la passion, c'est l'humanité du Fils de Dieu qui se donne à voir, redoublant le mystère ou la transcendance de Dieu. Dieu est tellement puissant que rien, pas même nos limites, ne l'empêche de nous rejoindre, ni notre faiblesse, ni notre vulnérabilité, ni notre péché, ni même notre mort. Un Dieu qui est bien l'Éternel, mais capable d'entrer dans le temps, de telle sorte qu'il ne faut pas le chercher ailleurs, hors de toute histoire, hors de notre histoire, avec laquelle il fait corps. Réciproquement à l'ascension, c'est le bout de la courbe, Noël à l'ascension. Réciproquement à l'ascension, c'est son humanité qui n'est plus apparente dans l'immédiat, mais cachée en Dieu. De telle sorte que nous ne pouvons plus imaginer Dieu sans être assurés de la présence en lui, avec son humanité, de la nôtre, attendue en espérance. Si nous touchons à l'homme, nous touchons à Dieu. Si nous touchons à Dieu, nous touchons à l'homme. Cette promesse sera tenue dans un avenir éternel où nous resterons chacun unique et tous solidaires. Alors c'est précisément à partir de là, à partir de cette histoire du salut, déchiffrée à partir des Écritures, que nous pouvons dire, croyant, que nous avons une autre mémoire de l'avenir. Nous avons dans la mémoire de quoi envisager l'avenir autrement que comme la répétition du mal et de ses fatalités. S'il y a un sens à la vie, il est ainsi rendu possible par cette ouverture radicale, cette possibilité même que le dernier mot ne soit pas au mal et à la mort. Pour autant, on le voit, cela ne nous dispense pas, au contraire, de bâtir ensemble des trajectoires de sens envisageables dans ce qui est à notre portée, dans la logique de notre responsabilité d'un monde sauvé, demeurent indispensables nos luttes contre le mal et les forces de mort. Comme moyen de nous orienter vers l'éternité, disait saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, Dieu nous a donné, en plus de la succession des générations, la raison et les mains, comme capables d'inventer indéfiniment des réponses théoriques et pratiques aux questions que la complexité des temps nous pose. À quoi j'ajouterais volontiers, à condition, pour nous maintenir à la hauteur de notre destin, si nous tenons à notre question « qui nous fera voir le bonheur ?», à condition de chercher la joie et non pas seulement les petits bonheurs du jour.
Chers amis, troisième moment avant que le père Bousquet, en quelques phrases, résume un peu l'ensemble de la trajectoire de notre double intervention. Vous voyez, dans le temps bref que nous avons choisi pour ces conférences, nous n'avons pas eu peur d'aborder des questions fondamentales, j'allais dire des questions de grande amplitude. Évidemment, ça permet seulement d'esquisser des pistes de réponse à prolonger par chacune et chacun d'entre vous. Mais ce que nous voudrions, en terminant aujourd'hui, c'est d'abord ressaisir l'horizon plus large de notre cheminement chrétien dans cette entrée en carême, puis de vous renvoyer au discernement à faire par vous-même, bien sûr, quelles que soient vos situations dans l'Église et le monde, vos différents états de vie, en vous mettant à l'écoute des appels que cela peut susciter en vous. Et je me limite à souligner trois aspects fondamentaux de notre démarche de foi. La vie a-t-elle un sens à la fin ? Eh bien oui, mais pas seulement à la fin, vous l'avez bien compris, dès à présent, sur la route. Je pointe trois lieux qui font sens. Le premier, l'Église comme corps d'espérance. Le deuxième, la présence des chrétiens dans le monde. Et enfin, last not least, la prière. Le premier lieu qui fait sens, c'est l'Église comme corps d'espérance. Il nous arrive de nous demander, et autour de nous, la question revient fréquemment, à quoi sert l'Église ? Eh bien, je crois que la première réponse pourrait s'énoncer ainsi, à être un corps d'espérance, c'est-à-dire à donner corps et visibilité au royaume de Dieu qui s'est fait proche de nous, qui est parmi nous en la personne du Seigneur Jésus. Il y a tant à faire sur ce point dans une logique d'incarnation et de visibilité. Non pas seulement en combattant la morosité et le repli ambiant, mais en pratiquant activement le service de la charité. Je vous renvoie à telle ou telle lettre pastorale de ces dernières années. Le sens, avons-nous dit, renvoie toujours, et le père Bousquet l'a redit avec force, le sens renvoie toujours à des personnes. Mais les personnes concrètes renvoient aussi au monde que nous partageons, dans lequel nous vivons, où il y a tant à faire, du plus proche au plus lointain, à l'échelle de la planète comme au plus près du quotidien. Donner des signes effectifs du royaume de Dieu, ce n'est pas seulement mettre en œuvre les sacrements, aussi importants qu'ils soient. Ces signes effectifs appartiennent au domaine pratique, à l'agir des croyants, pour que l'espérance, modestement mais efficacement, rejoigne ceux et celles qui en ont le plus besoin. L'Église, les chrétiens comme une bénédiction pour le monde. Ce n'est pas seulement un programme d'action, c'est lié à une profonde et permanente démarche de conversion. J'ai depuis mon ministère, depuis le début de mon ministère d'évêque, eu la joie, la grâce d'ordonner un certain nombre de diacres, ou en vue du presbytérat, ou de diacres permanents. Et la liturgie d'ordination des diacres contient une formule qui parle à tous les fidèles. Je la cite. Quand l'évêque remet l'évangéliaire au diacre, il lui dit « Recevez l'évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. » Cela invite tous les disciples du Christ que nous sommes saisis par l'Évangile, à faire de même. Un deuxième lieu qui fait sens et dont il convient de faire mémoire, c'est la participation des chrétiens aux souffrances et aux joies de notre monde. Au Concile Vatican II, la constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes, s'ouvre ainsi dans un élan magnifique. Je le redis, beaucoup connaissent ces premières phrases par cœur, mais elles sont tellement fortes que j'ai la joie de les reprendre. Je cite, « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. Leur communauté, en effet, s'édifie avec des hommes rassemblés dans le Christ, conduits par l'Esprit Saint dans leur marche vers le royaume du Père et porteurs d'un message de salut qu'il faut proposer à tous. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. » Premier paragraphe de Gaudium et Spes. Notre monde, en effet, est un monde en genèse, un monde marqué par tellement d'incertitudes, ces guerres terribles, ces évolutions imprévisibles, sans oublier les problèmes de santé inquiétants, les problématiques qui nous préoccupent, le changement climatique, l'urgence de trouver de nouveaux modes de vie autres que la production-consommation, le phénomène migratoire qui sera une constante dans les années à venir. Autant de défis qui sont comme des appels pour une présence renouvelée aujourd'hui, une présence active à ce monde en genèse qui est le nôtre. Troisième lieu, et je m'arrêterai avec ce troisième lieu qui fait sens, la prière ou tout simplement la redécouverte incessante de Dieu. Que nous soyons chrétiens d'héritage, comme on dit, ou chrétiens de conversion récente, ce qui nous permet de nous orienter, de ne pas perdre le cap, d'approfondir le sens que nous avons commencé à donner à nos vies, ces trajectoires dont a parlé François Bousquet, c'est de maintenir vivant le lien à Dieu, parfois si ténu ou fragile, et qui pourtant change tout. Je voudrais terminer par un très beau témoignage qui m'a profondément touché. C'est le témoignage d'une catéchumène qui nous fait saisir tout cela concrètement. Elle sera baptisée à Pâques. Elle m'a écrit pour me demander de l'appeler de manière décisive au baptême. Et ce texte est un peu long, je termine par là. Elle m'a donné son accord hier pour que je vous le lise ce soir, sans donner bien sûr son prénom ou son nom. Infirmière en juin 2017, donc c'est une jeune femme, je travaille en réanimation depuis avril 2019. Mon métier a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ce métier reflète ma personnalité. Je suis quelqu'un qui aime profondément l'autre. J'aime prendre soin des gens. J'aime donner de mon temps, de mon énergie, de mon attention et de mon amour pour les autres. En 2020, les services de réanimation n'ont pas été épargnés par la crise sanitaire liée au Covid. J'ai été confronté à la mort plus que jamais au cours de ma petite vie. J'ai dû trouver la force en moi pour tenir la main de mes patients jusqu'au dernier battement de cœur. Ceci étant seul, car les visites étaient interdites. J'ai fait tellement de toilettes mortuaires et laissé partir tellement de patients que je n'arrivais plus à croire en quelque chose. Fin de la première vague, le retour des familles. Le retour des familles dans les hôpitaux. Cela a été pour moi le début du vrai déclic. Il y avait tellement d'amour dans les chambres, beaucoup de gens priaient et j'ai pu voir l'effet positif sur certains patients et sur leur morale quand ils étaient conscients. J'ai alors commencé à me poser des questions et à en parler avec une amie, celle qui deviendra ma marraine. Elle m'a alors dit tout de suite qu'elle savait depuis que nous étions rencontrés qu'un jour je lui parlerai et que je demanderai le baptême. Elle me soutient et m'aide durant mon cheminement. La deuxième vague était là, mais cette fois, nous y ferons face avec l'aide des familles. Elles ont été un facteur déclenchant dans ma prise de décision. Elles m'ont tellement apporté, même si elles avaient perdu un proche, même si elles étaient dans la plus grande tristesse. Elles ont su me trouver en sortant de la chambre pour me tenir les mains et me remercier. Elles tenaient à me remercier pour ce que j'avais fait, mais surtout, elles tenaient à me bénir. J'ai reçu beaucoup de bénédictions pour moi, pour ma famille et pour mes collègues. Je les entends encore me dire « Que Dieu vous bénisse !» C'est alors que je me suis senti coupable de ne pas connaître ce Dieu qui leur apportait tant de bienveillance, tant d'amour et d'espérance. J'ai eu à ce moment-là envie et besoin de croire qu'il y avait autre chose après la mort pour mes patients. J'avais envie de pouvoir les confier à quelqu'un. Vous avez entendu tout à l'heure François. En septembre 2020, je commençais le catéchuménat. Durant mon cheminement, j'ai rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont aidé et qui m'aident encore aujourd'hui à mieux connaître notre Dieu et son histoire. Ils m'ont appris ce qu'est la foi et me l'ont transmise. J'ai pu vivre la troisième et la quatrième vague avec une autre approche. J'ai accompagné mes patients lors de leur mort. Je leur tenais la main et je priais pour eux, pour leur famille. Cela m'a beaucoup aidé. Fin de citation. Avouez que ce témoignage est poignant. Pour nous tous qui avons chacun notre parcours, notre histoire sainte particulière, personnelle, qui avons notre histoire, oui, ce témoignage nous redit l'urgence renouvelée de la prière, une prière instante et constante qui porte le monde et renouvelle les cœurs. Une prière qui n'est pas seulement une parole adressée à Dieu, même si la louange et la demande sont décisives, bien sûr, mais une prière qui est d'abord quête de Dieu et écoute de sa parole. Alors, avant d'écouter un postlude, comme postlude, le choral de Jean-Sébastien Bach, « Vor deinen Thron trete ich », donc j'entre devant le trône, c'est François Bousquet qui, en quelques instants, va, de manière pédagogique, résumer ce chemin que nous venons de parcourir.
Nous nous demandions en commençant, la vie a-t-elle un sens à la fin ?
Monseigneur François Bousquet.
Nous avons vu que les deux années qui viennent de s'écouler ont ravivé bien des questions existentielles, des questions qui nous touchent de près quand il y est question de vie et de mort, quand il y est question du sens de la vie dans le monde avec tout ce qui s'y passe. Nous avons perçu cependant que nous ne sommes pas sans repère, surtout si nous retenons à propos du mot « sens » la connotation de « direction à prendre » et si nous comprenons la fin de la vie non comme son terme, mais comme sa destination. Même si le monde paraît chaotique et nos vies parfois confuses, le mystère du Christ vient à la rencontre du mystère des ombres qu'il y a dans nos vies. Nous avons fait un pas de plus en disant que la fin, le but de la vie, c'est la vie, tout simplement, en ajoutant quelques remarques. Dès qu'il s'agit de l'être humain, le sens n'est pas dans les choses, ni dans les idées, mais il est toujours en rapport avec quelqu'un, une personne. Et même Dieu n'est pas une idée. Il prend vraiment sens quand il est reconnu comme quelqu'un. Mais alors, si nous voulons tenir compte du fait que les désirs humains sont contradictoires, cela a posé la question, à laquelle il ne faut pas répondre trop vite, d'identifier ce qui unifie notre cœur. Car là où est notre trésor, là est notre cœur. Pour continuer de baliser le chemin, nous avons caractérisé l'originalité de la réponse chrétienne à la question du sens. C'est-à-dire que les croyants comprennent les choses non pas seulement à partir du passé et de l'analyse des causes et des déterminations, mais à partir de l'avenir, essentiellement à partir de la résurrection, ou plutôt du ressuscité. Le ressuscité non seulement réconcilie avec le passé du péché, mais il est contemporain de notre présent et il ouvre aussi l'avenir, un avenir qui ne sera pas la simple répétition des fatalités du passé. Invité non pas à appliquer un plan déterminé qui surplomberait notre histoire et notre liberté, nous sommes invités tous ensemble à construire ou reconstruire des trajectoires de sens qui permettent, selon les aléas des temps, de vivre ensemble avec davantage d'harmonie. Et c'est ainsi que nous avons terminé notre premier périple en nommant trois lieux majeurs qui font sens: l'Église comme corps d'espérance, la participation des chrétiens aux souffrances et aux joies du monde de ce temps, et la prière incessante qui monte vers Dieu et porte le monde. La prochaine conférence s'efforcera de traiter la question redoutable pour le sens de la vie, la question du scandale du mal. Nous vous remercions.
Les conférences de Carême 2022, enregistrées à la cathédrale de Pontoise. Prise de son, montage et réalisation, diocèse de Pontoise. Retrouvez toutes les conférences de Carême du diocèse de Pontoise sur votre plateforme de podcast favorite ou sur le site internet du diocèse de Pontoise, catholique95.fr.